Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Pour votre journal des idées ce matin, vous revenez sur le premier débat de la campagne des européennes qui a laissé une impression mitigée.
Oui, un tour de chauffe plutôt confus, estime Lucie Delaporte, Manuel Jardineau et Ludovic Lamand dans Mediapart. Alors que les temps de parole étaient très strictement encadrés, les candidats ont peiné à développer, au-delà de quelques slogans, leurs idées. Le sujet de l'immigration au centre du débat a concentré un tiers du temps de l'émission, offrant une tribune aux plus réactionnaires des têtes de liste. En particulier, Nicolas Dupont-Aignan, qui a agité le chiffon rouge de la grande invasion, évoquant 18 millions de migrants entrés dans l'UE depuis 5 ans, en feignant d'oublier que près de la moitié sont des résidents européens qui ont circulé à l'intérieur de l'espace européen. À gauche, un sujet s'est imposé, la transparence de la bulle bruxelloise. Et lorsque François-Xavier Bellamy, les Républicains, a renchéri sur la question, il s'est attiré une flèche de Jadot qui lui a rappelé que les eurodéputés, les Républicains, avaient demandé à voter à bulletin secret lors d'un vote clé sur la transparence à Strasbourg. L'écologiste faisait allusion à une évolution du règlement intérieur du Parlement adopté le 31 janvier 2019 qui force les eurodéputés, lorsqu'ils sont chargés de directives ou de rapports, à rendre publique la liste des lobbyistes qu'ils rencontrent. Les députés de la droite européenne avaient alors demandé un vote à bulletin secret, une pratique extrêmement rare en séance plénière. Dans les pages idées de Libération, deux juristes et deux politologues soulignent, à quelques semaines des élections, un geste fort du Parlement européen allant dans le sens de la transparence. Les députés ont exigé le 26 mars le départ de Martin Selmer, ancien bras droit de Juncker, dont la nomination comme secrétaire général de la commission faisait polémique. Marie-Laure Basilien-Guinche et Sébastien Platon, ainsi que Guillaume Sacriste et Antoine Vaucher, rappellent les conditions délibérément opaques de cette nomination au poste de secrétaire général, le plus puissant fonctionnaire de la Commission européenne. Dans cette affaire, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel immédiat ou d'abus de biens sociaux, mais toute une série de faits limites. Les auteurs dénoncent la stratégie d'auto-limitation interne du pouvoir de la Commission qui passe par ces fameux codes de conduite, comme celui qui fut consolidé à la suite de l'affaire Barroso, passant de 18 mois à 3 ans la période de refroidissement pour le président de la Commission, après que ce dernier a rejoint trop précipitamment Goldman Sachs à l'issue de son mandat. Des procédés non coercitifs aux effets limités. C'est pourquoi il salue la décision du Parlement, dont il rappelle qu'il dispose de l'arme nucléaire, de la motion de censure, qui permettrait d'affirmer un contrôle externe sur la gestion de la Commission, et il suggère, à la veille d'élections européennes traditionnellement désertées par les électeurs, que le Parlement européen tente un coup symbolique, bien dans sa tradition, en censurant la Commission Juncker et en établissant la primauté d'un contrôle politique et démocratique sur ses décisions internes. Et en déclenchant ainsi l'électrochoc dont ont besoin ces élections pour devenir un grand moment de démocratie européenne. L'économiste Laurence Sialom s'en prend quant à elle au pouvoir exorbitant de la BCE. Elle estime dans Le Monde que ce genre d'institution aux super pouvoirs monétaires et financiers échappe au contrôle citoyen, en particulier en Europe, du fait de la non-coïncidence entre l'espace de circulation de l'euro et les espaces de souveraineté des États membres de l'Union monétaire. Or, cette indépendance vis-à-vis des gouvernements, ce vide démocratique, s'accompagne d'une écoute particulière et attentive aux intérêts du monde de la finance. En témoigne la composition des comités d'experts de la BCE. Nous devons réinventer une souveraineté européenne, déclarait Emmanuel Macron en avril 2018 devant le Parlement européen. Jean-Michel Quatrepoint développe dans l'hebdomadaire Marianne les grands axes pour une Europe réellement protectrice. Avec la chute du mur de Berlin et le triomphe du néolibéralisme, écrit-il, le projet européen change définitivement de nature. L'indépendance devient un concept ringard. Seul compte le marché, la libre circulation des biens et des personnes, la fin des frontières. Pourquoi dès lors se préoccuper de souveraineté? D'où l'élargissement à marche forcée plutôt que l'approfondissement, l'abandon de la préférence communautaire, l'incapacité à construire une Europe autonome de la défense autour d'industriels européens et l'absence de toute politique industrielle. industrielle commune, notamment sur les technologies du futur, en particulier le numérique. Deux pistes, taxer réellement le monopole des GAFAM en suscitant l'émergence de compétiteurs européens avec au besoin des aides publiques, et puis au nom de la nécessaire concurrence, et puis l'extraterritorialité du droit américain qui s'impose par exemple dans l'embargo sur l'Iran, lui opposer donc une extraterritorialité du droit européen, notamment à l'égard de certaines multinationales.